90% du temps, le serveur sera utilisé à ne rien faire. Donc on a fait un investissement qu'on paye, mais qu'on ne rentabilise pas.
Dire ça encore une fois.
Mine de rien, le responsable infrastructure, il est en première ligne. Quand il y a un problème sur un site, il y a un site qui tombe, il y a des failles de sécurité, il y a des intrusions, il y a de la perte de données. Je pense que tu dois avoir pas mal de sueur froide.
Il n'y a rien de plus frustrant justement de voir qu'on a travaillé et que finalement on a fait un produit qu'on pense qualitatif, mais que derrière, personne ne l'utilise.
À quel moment le DevOps va intervenir dans la conception technique du projet?
Dès le début. Et il faut qu'il soit là dès le début. Sinon, y a de grandes chances que le projet soit un échec.
Je suis Gérald-Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Co-fondateur de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Et un podcast qui me ressemble. 99% avis tranché, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews de talk débats, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Se veut ouvert, inspirant, factuel, et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Bonjour, bonjour à tous pour ce nouvel épisode de la série Discover, la mini-série qui fait une overview sur les différents métiers du digital. Aujourd'hui, qui est derrière l'intégralité des sites que mon agence Platypus Agency déploie. Cela fait près de 10 ans que l'on travaille ensemble. Il est l'homme de l'ombre, celui qui s'occupe des serveurs, de l'hébergement, de la sécurité, de l'infrastructure technique de nos sites. Il est passé parmi les plus grands groupes français. SFR, Pixmania, qui était alors l'un des leader du e-commerce en produits électroniques durant les années 2000, ou encore par Hermès, célèbre marque de luxe avec qui il collabore depuis 5 ans. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous tenterons de démystifier et de rendre accessible le métier qui est le métier de DevOps et responsable infrastructure. Pour ce faire, je reçois Lionel Rastocl. Lionel, bonjour.
Bonjour Gérald.
Comment vas-tu ce soir?
Ça va bien, ça va bien. Comme tu le sais, je suis en déplacement sur Paris pour une semaine pour rencontrer un des clients dont je m'occupe. Donc hors Platypus. Donc ça se passe bien. Un petit retour à Paris entre deux activités à la Martinique. Voilà.
Super. Lionel, avant de nous expliquer ce qu'est le métier de DevOps, peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours, s'il te plaît?
Alors, Lionel, j'ai Lionel Rastocl. J'ai 39 ans.
Ah, ça passe vite.
Et donc, j'ai fait des études d'ingénierie informatique. Suite à ça, j'ai fait le parcours que beaucoup font, c'est-à-dire entrer dans une SS2I, faire différentes missions. Et j'ai eu la chance de commencer par une mission chez Orange, sur le portail Orange. Et il s'avérait que c'était une expérience très enrichissante parce qu'on a tout de suite eu des sujets de sites avec à forte audience, avec des montées en charge à prévoir. Et aussi avec des problématiques clients particulières.
C'est quoi une montée en charge?
Une montée en charge, c'est... je vais prendre le meilleur exemple dont je parle à chaque fois. Je ne sais plus en quelle année, les puristes s'en souviendront, le décès de Michael Jackson. Donc, c'est un événement mondial et avec des répercussions dont on ne peut pas se douter, on se doutait pas. Et à ce moment-là, les responsables éditoriaux des différentes chaînes des sites Internet décident de faire des mises en avant, par exemple, de clips ou de son histoire. Et ça génère pas mal de trafic sur Internet.
OK.
Et là, déjà, c'était quelque chose qui n'était pas anticipé. Donc, entre son décès, en tout cas à l'heure française, le soir... Et le lendemain matin, il y a des opérations de com qui s'organisent, il y a des choses, même naturellement, parce qu'il y a pas mal d'articles, et ça génère un trafic impressionnant.
Ok.
Donc voilà, donc ça veut dire que ce trafic, il est accueilli sur des serveurs qui, eux, sont dimensionnés pour accueillir un certain nombre d'utilisateurs simultanément. Et là, qu'est-ce qui se passe? Michael Jackson, tout le monde vient se renseigner, tout le monde est un peu nostalgique, tout le monde vient voir ce qui se passe, et... le trafic explose. Et donc les serveurs sont voie rouge, les sites sont plus lents, il faut trouver des solutions pour pouvoir délivrer le service, sachant qu'on ne peut pas stopper, l'audience et empêcher aux gens de venir.
Ok.
Voilà. Sachant que derrière, il y a d'autres problématiques, comme par exemple des forums où les gens sont déchaînés parce que il y a des sujets polémiques autour de Michael Jackson, etc. Et voilà, et t'as tout un écosystème qui est en train de s'embraser et il faut pouvoir délivrer le service.
Donc en fait, c'est comme finalement une autoroute qui se charge.
Exactement.
Et il faut trouver une façon de fluidifier le trafic finalement.
Tout à fait, oui.
Ok. Ça, c'est intéressant parce que justement, j'ai prévu une question tout à l'heure où on va en parler, de voir quelles solutions on peut mettre en place pour fluidifier un trafic qui n'était pas prévu à la base.
Ouais, ok.
Qu'est-ce que tu as fait du coup après Orange ?
Après Orange, comme c'était ma première expérience, j'avais fait 5 ans, donc j'ai continué toujours dans la prestation de service chez SFR. Et je crois que c'est à peu près à cette période-là où tu as lancé le site Sleepers.
Ok.
Voilà. Donc au départ, c'était plus pour m'amuser et aussi pour voir en quelque sorte restituer ce que je faisais à grande échelle, avec toute une équipe, plein de gens derrière moi, mais le faire par mes propres moyens, parce que moi aussi, je suis un passionné à la base. Et donc, je me souviens, je t'avais dit, au départ, vous étiez parti sur un autre hébergement.
Ouais.
Et finalement, déjà, étant donné que vous ne sortiez pas un site e-commerce lambda, mais avec déjà pas mal de spécifiques, etc., vous êtes aperçu qu'au niveau de l'hébergement, finalement, un accompagnement personnalisé sur mesure serait intéressant. Donc, je me rappelle notamment sur les problématiques de référencement, de
tout à fait.
Autre chose, où il fallait faire pas mal de tuning, entre guillemets. Vous avez jugé opportun de passer par mes services. Et c'est là qu'on a commencé à collaborer.
C'est ça. Alors, pour ceux qui nous écoutent, en fait, Sleepers, c'est un site qui vend des chaussons assez fun. Je vous invite à aller voir sur Internet. Donc, c'est Sleepers, Sleepers.eu. Là, c'est le petit moment pub. Qu'est-ce que veut dire, Lionel, le mot, est-ce que c'est une contraction, le mot DevOps ? Ça veut dire quoi, DevOps ?
Alors, c'est la contraction de développement et opération.
OK.
Alors, parce qu'effectivement, quand j'ai commencé, en 2006 ou 2007, je ne sais plus, le monde du développement et le monde du système, l'hébergement, il y avait vraiment une limite et presque une guerre de tranchées. C'est-à-dire, l'ingénieur système a ses serveurs, c'est son royaume. Et je caricature, mais c'est tout juste s'il autorise des devs à venir déposer du code dessus. Et derrière, effectivement, on a un domaine de responsabilité qui est clair et net, en fait, une vraie frontière. Mais en contrepartie, le travail collaboratif n'est pas forcément optimal. Et alors pour ceux qui ont testé leur site perso ou qui même, on retrouve encore des systèmes comme ça, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez un espace d'hébergement chez un provider français type OVH ou autre, vous cliquez, vous faites votre parcours et après on vous donne un code FTP. Et après, vous posez vos pages HTML, votre code, votre WordPress dessus, mais vous ne collaborez pas avec la personne qui est de l'autre côté.
Okay.
Et si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas parce qu'il y a du spécifique, il y a quelque chose, vous êtes bien embêté si vous n'avez pas les compétences.
On se retrouve un petit peu seul, en fait, finalement.
Exactement. Donc, DevOps, c'est lié à pas mal de concepts qui sont apparus à la même époque. Donc, il y a effectivement toute la partie agilité. Le fait de... Enfin, l'agilité, tu connais mieux que moi. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé.
Pas encore, ça va venir dans les sujets.
Voilà. Mais en fait, rapidement, à l'époque, en tout cas, sur beaucoup de projets on va dire historiques, c'est un cycle en V. On fait la conception, on réalise et on déploie. Et ça, en une seule itération. Ce qui fait que quand on a un problème, on peut le voir qu'à la fin, on n'a pas le temps de rectifier. Et c'est peut-être adapté pour du monde industriel, mais finalement, en développement informatique, on s'est aperçu que c'est pas... qu'on pourrait faire mieux. Donc, ça introduit l'agilité, donc en termes de gestion de projet. Mais derrière, il y a eu des déclinaisons, donc la partie DevOps qui permet justement à la partie système et la partie applicative ou développement, comme vous voulez, de mieux collaborer. C'est-à-dire qu'on ne considère plus que ce sont deux produits différents, mais un unique produit avec une interface qui, ben, du coup, va devoir comprendre qu'est-ce que son interlocuteur côté développement souhaite déployer, comment le déployer, à quelle fréquence le déployer,
okay,
pour que ça fonctionne et de façon huilée. Alors, pour revenir à l'agilité, on a un système, on a des cycles qu'on appelle des sprints, avec des livraisons régulières de code qui permet aux clients de voir l'évolution des développements au fil de l'eau et pas juste attendre la fin des 6 mois, 2 mois, 3 mois, X mois de projet pour pouvoir son produit. Et l'idée, c'est de permettre justement aux développeurs d'avoir une vision, déjà d'être autonome, mais de pouvoir déployer son code au fil de l'eau et de pouvoir avoir une visualisation de ce qui se passe. Donc là, on commence à introduire des concepts d'intégration continue, c'est-à-dire que, voilà, de versionning de code. Enfin, il y a pas mal de notions. Enfin, je ne sais pas si on aura le temps d'entrer dans
les
détails.
Alors, voilà, en tout cas, moi, je le note pour voir si on peut en parler tout à l'heure. L'intégration continue, le versionning de code. Mais finalement, donc, DevOps, c'est avant tout une approche, une culture, en fait, au final.
Tout à fait, oui. Voilà,
c'est un mindset.
C'est un mindset et effectivement, on peut avoir des DevOps qui sont plus du monde du système, d'autres plus du monde du développement. Il n'y a pas forcément de parcours type, en fait. Des fois, ça accompagne la culture de l'entreprise, la transformation de l'entreprise qui va faire que tel profil va s'orienter vers le DevOps ou voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une passerelle entre le socle d'infrastructure, comme on a pu le connaître il y a des années avec des serveurs physiques, etc., etc., et le développement. Il faut vraiment le voir comme une passerelle, un facilitateur, pour que le développeur n'ait pas à se soucier de l'infra et pour que la partie système puisse comprendre et mieux appréhender ce qui va être déployé et comment le déployer et l'optimiser surtout.
Ok. Alors, c'est marrant, si tu parles effectivement de la partie infrastructure, est-ce que tu peux me raconter ta première expérience ou situation, ton premier souvenir en fait qui t'a mis sur la voie de ton métier actuel, donc responsable infra ou DevOps? Qu'est-ce qui a fait tilt? Tu dis, ah, c'est ça que je veux faire.
On va dire que ça remonte à l'adolescence, Internet, les ordinateurs, on télécharge des jeux,
ICQ,
etc. Enfin, il y a pas mal de souvenirs. Et on s'intéresse à... on démonte des PC, on monte des PC. Quand on est sur Paris, on prend son samedi matin pour aller à Montgalet acheter chaque pièce dans le détail, on remonte les PC. Donc forcément, je pense que j'étais peut-être plus côté système, comme on dit. Et le développement, j'étais curieux, mais sans plus. C'était pas forcément... j'étais plus proche, de la partie matérielle.
Ok.
Et comprendre comment ça marche. Après, effectivement, si ça permet d'installer des jeux, de regarder des DivX à l'époque, etc., c'est tant mieux. Et j'ai eu la chance, justement, d'avoir cette première expérience chez Orange, où on m'a proposé de faire de l'hébergement. Sur un portail à forte audience et en plus ils venaient de racheter une start-up et du coup le milieu était très très ouvert et très très enrichissant, c'est-à-dire que en un mois j'avais déjà appris énormément de choses et voilà.
Okay.
Et forcément c'est passionnant, on apprend des choses, on est confronté à des sujets comme à l'époque l'envoi des SMS via le
site,
via un site internet, et le pic du nouvel an à gérer chaque année. Et ça, c'était super intéressant parce que il y a des concepts qu'on va retrouver aujourd'hui, par exemple le système de file d'attente quand on va acheter des places pour un concert, pour un match de foot. Mais il a fallu développer des choses ou mettre en place des choses pour pouvoir mettre les SMS en file d'attente pour pouvoir les délivrer au fil de l'eau, etc. Et étant donné que ben là où j'ai parlé de comment ça s'appelle de partie système, faut pas oublier que derrière on a un ordinateur et que ben les gens des fois ils pouvaient aussi programmer leur SMS et ils disaient ah bon ben je vais programmer mes SMS pour le 31 décembre à minuit. Mais finalement, le 31 décembre à minuit, c'est 24 heures d'avance.
Okay.
Et donc, on s'apercevait qu'il y avait un pic de trafic 24 heures avant le nouvel an, alors que, ben voilà, mais effectivement, tu dis à la machine 31 décembre à minuit, ben, elle envoie le 31 décembre à minuit. Donc derrière, ça peut donner lieu à des réflexions où tu te dis, mais peut-être que... Et c'est là où tu vas devoir parler avec les développeurs, dire, ben... Oui, peut-être qu'il faudrait mettre en tout cas un message d'avertissement. Attention, quand vous planifiez un message pour cette heure-là, pensez bien que finalement, ils seront envoyés avec 24 heures d'avance, etc., etc. Mais ça, on peut le faire en bonne intelligence si on se parle. Et voilà, donc en fait...
C'est aussi... En gros, vous avez pris un pic de trafic 24 heures avant ce que vous avez prévu, finalement. C'est ça,
exactement,
un peu
le
truc.
Effectivement, il n'est pas comparable au réel pic de trafic, puisque la plupart des personnes mettaient le
1er janvier à minuit.
À minuit, mais il y avait une part quand même non négligeable de personnes qui mettaient...
Ok. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que pouvoir, quand on a un applicatif en soi, c'est... prévenir en tout cas et coordonner avec la partie infrastructure les potentielles campagnes marketing, les impacts en fait que pourront avoir le trafic sur l'applicatif.
Voilà, exactement. Et donc, à l'époque, les serveurs étaient physiques. Donc, ça veut dire qu'un serveur physique, c'est un serveur qu'il faut aller mettre en data center. C'est-à-dire qu'il faut de la place, il faut de l'énergie. Il faut que la salle serveur ait suffisamment de clim pour refroidir tout ça. Et ben, commander un serveur et l'installer... on va pas chez Carrefour et on l'installe dans la journée. Et je pense que c'est l'un des plus gros défis qu'il y avait à l'époque. C'était vraiment de... Ben, on était obligé d'anticiper sur plusieurs mois, semaines, pour pouvoir...
acheter un serveur, avoir un budget.
Ou un ou X serveurs.
Les configurer, il y a derrière ça.
Exactement. Et voilà.
Alors, ça tombe très bien, parce que ma prochaine question, justement, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'on appelle le cloud. Qu'est-ce que le cloud dont tout le monde parle? Qu'est-ce qu'un hébergement cloud, au final, aussi?
Alors, le cloud, c'est un modèle de consommation de services informatiques, enfin de ressources informatiques, qui est facturé à la demande. J'explique. Aujourd'hui, ben justement, par rapport à toutes ces variations de trafic, on achète un serveur. Il tourne avec 10 visites quotidiennes. Et puis, un jour, il y aura un événement. On va avoir 50 visites quotidiennes. Et du coup, 90% du temps, le serveur sera utilisé à ne rien faire. Donc, on a fait un investissement qu'on paye, mais qu'on ne rentabilise pas.
OK.
Et donc, effectivement... alors, Amazon te dira effectivement que eux... Ils sont aperçus de ce problème-là. Ils ont eu l'idée de demander, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais à un des grands constructeurs à l'époque, de savoir s'ils pouvaient leur louer les serveurs, mais à la demande. C'est-à-dire pas tout le temps, mais qu'ils puissent de temps en temps...
Uniquement quand ils en ont besoin.
Voilà, récupérer, parce qu'ils savent qu'ils ont une opération marketing, etc. Et c'est de là que le modèle de cloud est né, en fait. Et... On va peut-être parler pas mal d'Amazon, mais bon, le système est le même. Mais il faut savoir que chez eux, en fait, tous les besoins, enfin, tout ce qu'ils proposent aux clients aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu des besoins eux-mêmes. Et finalement, on parle d'Amazon, la partie e-commerce, mais ce qui leur apporte beaucoup d'argent, c'est surtout toute cette partie cloud, parce que le modèle de consommation à la demande, il est intéressant, mais il leur apporte énormément d'argent parce que... cette flexibilité, elle est très populaire et permet de ramasser beaucoup de clients. Donc, on parlait juste avant des serveurs physiques. Aujourd'hui, je vais pouvoir dire, j'ai mon serveur, j'en ai un, mais je veux que pour, par exemple, on va prendre l'exemple qui nous concerne, le tour d'Eyol, je veux pouvoir passer à 10.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, le tour d'Eyol, c'est l'un des plus gros événements sportifs qu'on a en Martinique. Et il se trouve qu'avec Lionel et trois autres copains, on a créé en fait une application mobile et un site internet qui fait qu'on a énormément de trafic qui arrive au même moment.
Voilà. Et on veut pouvoir passer de 1 à 10 en quelques secondes ou en quelques minutes. Et donc, c'est ce que le cloud permet. Parce qu'effectivement, si pendant 24 heures, on paye 1 euro le serveur, enfin 1 euro le serveur à l'heure, on sait que les 10 serveurs supplémentaires, on va payer la quote-part correspondant aux quelques heures où ils seront restés allumés.
Okay.
Et qu'une fois que le pic d'audience sera parti, ils vont s'éteindre et on arrête de payer pour rien. Donc ça optimise...
C'est de la souplesse, en fait.
Voilà, de la souplesse et un modèle de facturation qui te permet justement de t'adapter à des situations.
Comment s'appelle ce modèle, justement, de faire en sorte qu'un site peut passer potentiellement d'un serveur pour avoir, on va dire, 10 visites par minute à, très rapidement, 100 visites par minute?
C'est la scalabilité.
OK.
Et alors, on va revenir justement sur le DevOps. C'est un sujet système, puisque c'est côté système où on va pouvoir rajouter de la puissance, de la capacité d'hébergement. Mais derrière, il faut que l'application puisse être distribuée sur plusieurs serveurs en même temps et servir les sites en même temps. Je vais donner un exemple assez simple. Aujourd'hui, on arrive sur un site de e-commerce. On met des articles dans le panier. Mais imagine... Et donc, tout ça, c'est stocké sur un serveur. Toutes ces informations-là, ce qu'on appelle les informations de session. S'il s'avère que finalement, pour des raisons autres d'infrastructure, on est redirigé vers notre serveur, il faut que toutes ces informations de session puissent être retrouvées pour qu'on ne perde pas le panier, l'authentification, transiter, etc. Donc ça, c'est pour ça que je dis qu'il faut pouvoir discuter avec les équipes de développement pour savoir comment ce système d'autant de sessions, etc. est géré pour faire en sorte que lorsqu'on passe d'un serveur à un autre, qu'on puisse retrouver sa session et ne pas perdre son panier. Enfin, voilà, pour le cas e-commerce. Donc, c'est aussi cette partie-là que tout cet aspect-là que le DevOps va devoir gérer pour que ça soit le plus transparent possible pour l'utilisateur.
OK, d'accord. Et quel est ton plus beau souvenir ou accomplissement que tu as eu à faire sur un projet?
Plus beau souvenir.
Alors, moi, j'ai aussi, après, tu me raconteras aussi le Roland-Garros aussi. Je suis Orange à l'époque.
Roland-Garros, c'était intéressant. Ouais. Oui, c'est vrai que Orange, ça a permis de voir des choses intéressantes et des sujets intéressants. Mais je pense que ça reste quand même le tour des yoles parce que c'est, d'un point de vue de l'affect, déjà, c'est un événement qui nous concerne. Et ça a été moi par moi-même, en fait. Je parle sur l'aspect infrastructure
technique.
DevOps. Bien sûr, on a collaboré, puisque c'est l'intérêt de la chose. Mais je me rappelle qu'on regardait les chiffres, on voyait que ça montait en flèche et que ça continuait à tourner. Bon, il y avait une goutte de transpiration juste avant, mais on était contents. Voilà, et voilà, au moment de l'arrivée, on voit que les chiffres grimpent et que finalement, l'infrastructure tient. On se dit, voilà, on a fait quelque chose, on a fourni un travail de qualité et l'audience est là. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant, justement, de voir qu'on a travaillé et que finalement, on a fait un produit qu'on pense qualitatif, mais que derrière, finalement, personne ne l'utilise. Là, voilà, il a été utilisé et mis à l'épreuve, c'est surtout ça. Et voilà, d'un point de vue personnel, voilà. Et puis, quand on est en Martinique et qu'on parle du Tour des Halles, ça parle aux gens, surtout ça.
OK. Et alors, si on prend l'inverse, pour le coup, quel est ton plus mauvais souvenir? Parce que, mine de rien, le responsable infrastructure, il est en première ligne. Quand il y a un problème sur un site, il y a un site qui tombe, il y a des failles de sécurité, il y a des intrusions, il y a de la perte de données. Je pense que tu dois avoir pas mal de sueur froide. Quel est le truc qui t'a le plus marqué?
Le plus marqué, je sais pas s'il y a une situation particulière, mais c'est vraiment effectivement le fait de toujours être en course pour assurer la sécurité, en fait. C'est un challenge quotidien. Aujourd'hui, tu mets une protection, mais demain, elle est déjà obsolète. Faut t'adapter. faut faire de la veille et faut faut être prêt aussi par rapport à la taille de ma structure à être réveillé ou recevoir un message un dimanche matin alors que t'as même pas encore lavé ton visage et dire oh mince bon ben voilà il va falloir gérer ça parce que ben, derrière il y a un client, il y a un service qui tourne plus, il y a un service qui est compromis. Et il faut pouvoir le sécuriser, le rétablir.
Ouais, donc il y a un client, il y a des utilisateurs, il y a de l'argent en soi. Puisque,
tout à fait, oui.
Donc de business, en fait, qui tourne pour le coup.
Exactement, oui. Et ben, derrière, il faut gérer de la communication, il faut pouvoir gérer, enfin réparer, il faut pouvoir ben, restaurer des données. Et tout ça, avant de pouvoir le faire en un claquement de doigts, de l'automatiser, il y a des étapes manuelles. Et ben, c'est très pénible parce que ben, faut faire attention à ne pas te tromper, à restaurer la bonne sauvegarde, à ne pas supprimer les données actuelles, à pouvoir les récupérer. Et ben, voilà, c'est un travail qui peut être stressant parce que ben, derrière, il y a un client qui te dit j'attends où tu en es, il ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a accompli du chemin. C'est encore perfectible, il n'y a pas de sujet. Mais voilà, c'est ce genre de situations qu'on tend à réduire, mais qui sont les plus désagréables et les plus stressantes.
Ouais. Ok. Et du coup, quelle est la qualité principale qu'il faut pour toi pour être un bon DevOps ou un bon responsable d'infrastructure ?
Ben, aujourd'hui, effectivement, il faut comprendre, et là, on revient toujours à ce lien qui est important, comprendre les applications qui tournent sur tes infrastructures. On l'a bien vu ces derniers temps, il y a des CMS, donc je ne sais pas si on fera peut-être un petit aparté comme WordPress, que je maîtrise relativement. Donc aujourd'hui, je suis autonome pour débugger, pour voir comment ça fonctionne, etc. Mais par exemple, sur l'un des derniers projets qu'on a aujourd'hui, étant donné que c'est un gros projet et que ben, y avait pas mal d'interlocuteurs, donc effectivement, j'avais beaucoup plus de recul et de hauteur par rapport à ce qui a été déployé. Et en cas de problème, ben, j'étais un peu démuni, en fait. Okay. J'étais pas autonome. Et c'est aussi un des sujets, parce que effectivement, lorsqu'une équipe de développement a livré son applicatif et, par exemple, qu'il n'y a pas de contrat de maintenance ou autre, finalement, ben, l'hébergeur, le responsable infra, est tout seul à devoir rendre le service. Donc, quand un bug applicatif arrive, il faut pouvoir être à minima capable de l'identifier. Pas forcément le corriger, puisque ce n'est pas forcément mes compétences.
Et le rôle.
Voilà, mais au moins pouvoir l'identifier. Et ben, c'est pour ça que y a quand même un investissement. C'est pas juste, voilà, allumer des serveurs et être sûr qu'ils tournent. Il faut quand même comprendre ce qui va être déployé, comment il va être déployé, comment investiguer dedans. Donc, on va parler des logs ou fichiers journaux, si on veut parler français.
Alors, c'est quoi les logs et fichiers journaux ?
Alors, les logs, c'est, aujourd'hui, il y a un site qui fonctionne avec un parcours utilisateur. Et l'idée, c'est de pouvoir tracer tous les événements qui vont se faire sur ce site ou sur le parcours utilisateur dans des fichiers. Donc, c'est du texte qui s'affiche en disant ben, l'utilisateur a mis à jour son panier, l'utilisateur a passé telle étape, etc. etc.
Il s'est connecté, il a créé l'adresse.
Connecté, etc. Et là, il y a une erreur de tel type. Donc, c'est des messages qui peuvent paraître abstraits ou compliqués à comprendre, mais qui respecte quand même un certain format qui fait que ben, aujourd'hui, on va avoir tel message d'erreur, on saura que ça pointe cette destination-là, ou ce fichier-là, ou cette partie-là du processus.
Ok. Ça permet en fait, d'identifier finalement, un, ce qui s'est passé, et où ça s'est passé dans l'applicatif pour aider et faciliter la correction derrière ça.
Exactement. Des fois, ça ne suffit pas, mais c'est déjà une première étape. Mais il faut pouvoir, justement, avoir travaillé avec les équipes applicatives pour se dire, voilà, moi j'écris les logs, enfin je fais en sorte que les logs soient dans tel dossier. Maintenant, c'est à toi, donc côté DevOps, de faire en sorte qu'ils apparaissent ou qu'ils soient accessibles quelque part sans qu'on ait, par exemple, à se connecter directement sur le serveur.
Okay.
Donc, il y a des outils pour ça qui vont permettre, en web, depuis son navigateur, de voir tout, justement tous ces journaux d'erreurs. Enfin, d'erreurs ou pas, mais en tout cas, tous les journaux de l'application. Et permettre soit aux développeurs, soit aux DevOps de pouvoir les lire et de pouvoir d'effectuer un premier diagnostic.
Ok. Qu'est-ce qui te provoque du plaisir dans ce que tu fais au quotidien?
Ben, pas mal de choses. Alors, on va peut-être commencer par les étapes. C'est ben, quand il y a une nouveauté, un petit challenge technique, ben, c'est justement de l'avoir passé, en fait. Voilà. Il y a eu on s'est dit, ben, aujourd'hui, on va mettre en place telle chose. On ne l'a jamais fait. On suppose qu'on est... Enfin, on suppose, on a de grandes certitudes de savoir qu'on va y arriver. On cherche, on teste, etc. Et lorsque ça fonctionne, et surtout lorsqu'on on a automatisé la mise en place de cette fonctionnalité ou autre, ben le fait que ça fonctionne et que ça se déroule sans problème, ben c'est une grande satisfaction. Et aujourd'hui aussi, ce qui me fait plaisir, c'est aujourd'hui on travaille, on utilise Slack. Donc Slack, c'est un système de messagerie instantanée avec différents canaux. Et dessus, on a mis des systèmes de notification. C'est-à-dire que chaque application qui tourne ou qui est déployée envoie des messages pour dire tel développeur a fait un certain nombre de modifs et elles sont poussées sur un environnement de développement et sont visibles. Ben moi, je suis content en fait, de voir que quand je me réveille le matin ou quand j'ouvre le Slack, par exemple, ben, je vois qu'il y a 4, 5, enfin, je ne sais pas si on a déjà monté plus, en tout cas simultanément, 4, 5 projets qui roulent, qui tournent et sans que j'ai forcément à intervenir dessus dans la journée. Ça veut dire que tous les systèmes d'automatisation mis en place fonctionnent. Et qu'en plus, on est notifié que ça tourne. Quoi. C'est une grande satisfaction.
Parce qu'on a beaucoup parlé effectivement du rôle de DevOps dans la partie production, donc un site qui est en ligne pour le grand public, mais finalement, le DevOps, il a un rôle qui est très très proche des équipes de développement, notamment durant les phases de développement, pour le coup, pour leur apporter un serveur pour qu'ils puissent tester ce qu'ils ont fait, et puis leur apporter des outillages qui permettent d'automatiser soit le déploiement d'applicatifs qu'ils ont développés, soit le déploiement de tests, des choses comme ça, en fait.
Tout à fait, oui. Et toute cette automatisation-là, il y a des prérequis pour faire en sorte que ça fonctionne et qu'on parle le même langage et que les équipes de développement soient autonomes et justement que de mon côté, je ne sois pas dérangé à chaque déploiement, à chaque modification de virgule dans le code, etc. etc. Et aussi permettre à tout le monde d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un déploiement qui échoue, ça peut arriver. Le développeur est capable déjà d'identifier ce qui n'est pas allé et me dire, voilà, Lionel, il y a ce problème-là, je pense que ça vient de là. Et donc, déjà, moi, je gagne du temps parce que je sais déjà... il a déjà fait un premier travail d'analyse, mais il a pu faire ce premier travail d'analyse parce qu'il a les outils lui permettant justement d'avoir accès à ses métriques, à ses messages d'erreur, etc., etc.
Donc, c'est aussi finalement apporter un outillage au quotidien, il y a de support au quotidien des équipes de développement.
Tout à fait. Mais avec un objectif d'automatiser le plus possible.
Bien sûr.
Après, on n'est pas des robots, donc on n'est pas là juste pour se parler par message d'erreur ou par notification. Donc, effectivement, on a le Slack où on échange régulièrement, où on a les différents sujets, on peut suivre, on a l'historique. Mais. Toute l'automatisation nous permet de gagner énormément de temps.
Ok. Alors, à quel moment, dans un projet e-commerce, un vrai projet e-commerce d'envergure, un projet qui va faire au minimum 50 à 100 commandes par semaine, voire en plus, voire 400 commandes par semaine, à quel moment le DevOps va intervenir dans la conception technique du projet? À quel moment on va collaborer avec un architecte ou avec les développeurs?
Dès le début. Voilà, il n'y a pas. Et il faut qu'il soit là dès le début. Sinon, ben, il y a de grandes chances que le projet soit un échec. En fait, faut savoir ben, à qui est adressé le projet, qui sera le client final, B2B, B2C, enfin voilà. Quelle est la nature de l'audience? Est-ce que c'est quelque chose de régulier? Est-ce que c'est quelque chose qui sera
saisonnier,
périodique, etc. Au niveau des horaires aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui tourne plutôt la journée, plutôt la nuit? Est-ce qu'il y a des sujets liés à la sécurité? Aujourd'hui, ben, la donnée personnelle, on sait que c'est quelque chose de précieux. Et à la fois d'un point de vue business, on ne va pas se mentir, mais aussi d'un point de vue utilisateur, ben, où il faut protéger les données des utilisateurs. Donc derrière, si, je ne sais pas, moi, si je ne suis pas informé que on va stocker des noms, des prénoms, des adresses e-mail ou des numéros de carte bleue, ben déjà, un numéro de carte bleue, je vais te dire, moi, je ne suis pas habilité à stocker des okay. numéros de carte bleue parce qu'il y a des certifications, etc. Si c'est des données de santé, pareil. Voilà, ça va aussi appeler de ma responsabilité à dire non, je n'ai pas la certification pour faire cette activité. Il faut peut-être passer par un service qui est habilité.
Ok.
Voilà, il y a aussi un devoir de conseil, mais dès les phases de conception. Donc.
Parce qu'en soi, ça peut être des vraies contraintes, et là, des contraintes, mais un vrai coût, parce que un prestataire extérieur qui serait lui habilité à héberger données de santé ou données personnelles, données bancaires, bah, ça a un certain coût. Et qu'il faut prendre en compte dès la conception du projet, pour le coup.
Mais voilà, mais ce coût, il peut être encore plus cher si tu le fais sans y avoir droit. Donc,
Tout à fait. Alors. On m'a parlé il y a quelques temps, je sais que c'est très en vogue, moi je sais ce que c'est, mais c'est pour en parler avec tout le monde, de ce qu'on appelle l'infra as code. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept d'infra as code de façon très 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 simple?
Alors l'infra as code, c'est quoi? On va repartir du début. Avant, donc on avait des serveurs physiques. On les achetait, on les installait, on mettait les câbles réseau, on les allumait. Et on mettait peut-être le CD-ROM ou le truc et on déployait l'OS, le système d'exploitation, puis les logiciels, etc. Ensuite, on est passé à la virtualisation. Donc là, on a eu toujours les serveurs physiques, mais après avec une couche de virtualisation.
Donc c'est que dans un serveur physique, il y avait peut-être plusieurs serveurs, c'est ça?
Exactement, oui. Okay. Et chaque serveur est isolé.
Il était virtuel.
Voilà, exactement. Ensuite, on a commencé à passer au cloud, donc on est toujours sur de la virtualisation, puisque le cloud, ce n'est pas des serveurs physiques qui se... Enfin, quoique, Amazon peut les allumer peut-être à la volée, mais c'est des serveurs virtuels qui s'allument, etc. Et ensuite, on a eu aussi des services. Alors, je vais faire une petite aparté, on a la notion de serverless, c'est-à-dire qu'on a des services qui tournent, mais finalement, on ne sait pas si on a une machine virtuelle, on ne sait pas ce qui tourne. On a juste un service, par exemple, pour parler du plus connu, qui est Amazon S3, qui est un service de stockage illimité. Enfin, on va payer justement à la consommation, okay. En fonction du nombre de données stockées, enfin de la quantité de données stockées. Mais ce service, aujourd'hui, c'est un espace de stockage, mais on ne sait pas s'il y a un serveur, 10 serveurs, etc. Et à la rigueur, le client n'a pas besoin de savoir ce que c'est.
Alors, pour ceux qui pensent ne jamais l'avoir vu, tous ceux qui ont utilisé WeTransfer, par exemple, sont forcément passés par un stockage Amazon S3.
Tout à fait. Et donc, ensuite, on a tout ce qui s'appelle, pour continuer sur du serverless, on a ce qui s'appelle les lambda. Alors, lambda, c'est quand on a du code à faire tourner, mais qu'on n'a pas besoin ou d'avoir une machine virtuelle, etc. C'est-à-dire qu'on déploie le petit bout de code. Et il tourne, je ne vais pas dire par magie, mais il tourne. Il est déclenché par des événements, donc soit un utilisateur qui arrive, soit un déclenchement périodique, soit parce que justement un fichier aura été posé sur le bucket S3 et il va savoir que derrière ce fichier-là doit être traité pour, par exemple, une photo être transformée ou autre. Donc là, on est vraiment au niveau d'abstraction où ton code tourne, mais sans, là, tu n'as vraiment plus à te soucier de l'infra.
Et est-ce que c'est aussi, c'est la question, les lambda qui permettent, par exemple, je prends tous les outils connectés, comme on a Alexa de Amazon, choses comme ça, ou Siri et tout et tout. En fait, et les Google aussi, les Google Home, qui permettent d'interagir avec ces outils-là et qui potentiellement pourraient dire, je ne sais pas, à partir du moment où j'arrive chez moi, un événement, et je déclenche du coup une lambda sur Internet.
Oui, voilà, sachant, voilà, exactement. Et comme on parle d'Amazon, donc il faut savoir que ben, aujourd'hui, si vous avez quelques compétences en développement ou très peu, aujourd'hui, vous pouvez développer vos propres skills. C'est comme ça qu'on appelle une fonctionnalité sur Amazon Alexa, Amazon Echo, personnalisée. C'est-à-dire, ben, aujourd'hui, vous voulez que lorsque vous dites Alexa, envoie un mail à mon mari, ben, le mail sera peut-être déjà pré-programmé, pré-enregistré, avec l'adresse justement de votre mari, et derrière, ben, ça va lui envoyer un message. Et cette fonction-là, tout ce système-là, on n'est pas obligé d'avoir un serveur derrière. On peut avoir le bout de code qui va faire tout ça, qui sera déclenché par l'appel d'Alexa. Et voilà, ça va s'enchaîner, enchaîner des actions, etc. Donc, c'est vraiment personnalisable et à souhait. Et donc, c'est toutes ces choses-là, pour les configurer, les installer, on peut effectivement aller sur l'interface Amazon, comme certains d'entre vous le font peut-être chez OVH, chez GoDaddy, chez OneN1. On clique, on dit voilà, on veut un serveur, on veut un hébergement, on veut une base de données, etc. etc. Par contre, le problème, c'est que quand on a besoin de le reproduire, il faut qu'on se souvienne où on a cliqué et...
Exactement, quelle configuration on a réalisé.
Exactement. Ben, il y a quelque chose qu'on appelle l'infra-as-code qui fait que ben, tous ces paramètres-là, tous ces clics vont être remplacés par du code. Donc, ça veut dire qu'on écrit dans du code, on le versionne comme le code applicatif pour pouvoir traquer les modifications qu'on a faites ou si on est plusieurs à travailler dessus. Et derrière, on lance un outil qui va interpréter ce code et créer les machines virtuelles, créer le stockage S3, créer les fameuses lambda, créer la base de données et faire en sorte que tout cet écosystème ben, puisse être reconstitué en quelques secondes, en quelques minutes, ou même, on pourrait même avoir le luxe de tout détruire et de reconstruire à la volée et sans avoir à faire 50 clics et avoir des risques d'erreur, en fait.
Ok, donc potentiellement, ça permet, un, de gagner du temps au déploiement en fait, de nouveaux systèmes. Demain, tu as un nouveau client, toi, tu as créé un petit script d'infra-as-code pour déployer un WordPress avec une base et d'autres éléments. Et en un instant, ton script est lancé et tu vas mettre le nom peut-être du client et ça va générer directement
voilà,
un nouveau serveur.
On peut le reproduire à l'infini. Quoi. Voilà. On peut le reproduire
okay.
à l'infini.
Super. Alors, comment tu vois ton métier d'ici 5 à 10 ans?
Alors, c'est un débat intéressant parce que ben, finalement, avec toute cette évolution où à la base, on savait qu'on achetait un serveur HP, un serveur Dell, un serveur n'importe quoi, qu'il fallait mettre de l'électricité, etc. Aujourd'hui, avec l'approche cloud, si on va à l'extrême, quelqu'un qui faisait ça il y a 10 ans, aujourd'hui va juste se contenter de remplir des fichiers de configuration.
Donc, son métier a évolué.
Voilà, il a évolué. Mais justement, enfin après, c'est mon opinion. Les puristes diront non, mais moi, j'aime bien savoir ce qui se passe très bas niveau. Là, c'est comme quelqu'un qui va avoir une voiture manuelle, qui va dire non, mais moi, j'aime bien les sensations, la conduite, freiner moi-même. Ou quelqu'un qui, aujourd'hui, on a des voitures hyper connectées, qui gèrent les vitesses, qui font des freinages d'urgence, etc. C'est du confort qu'on a et aussi une énergie qu'on peut mettre pour faire autre chose. Donc, ne pas avoir à se soucier de mettre d'acheter des serveurs, c'est aussi permettre ben, justement de se concentrer sur des problématiques plus proches du client et de fournir un niveau de service. Donc, l'automatisation pour moi, c'est une bonne chose. Ça permet d'optimiser ben, le temps passé. Si on parle d'un point de vue business, ben, si effectivement j'ai que des fichiers de configuration à remplir, à renseigner et que tout est automatique, ben, potentiellement, j'ai plus de clients. Peut-être qu'effectivement, ça va me permettre de faire plus de prospection, etc., etc. Tandis que si j'ai... avoir plus de temps pour me consacrer à la famille, à ma famille, tout en ayant plus de clients et plus de services à héberger. Donc moi, je pense que c'est une évolution naturelle, qui est rapide, par contre. Je ne veux pas dire que si on ne prend pas le train, on est perdu, parce que finalement, c'est des choses qui sont rattrapables, etc. Mais une évolution rapide qu'il faut pouvoir suivre et qui, derrière, permettent d'avoir d'autres perspectives, en fait.
Donc toi, tu penses que donc, du coup, le fameux phrase code dont on parle à l'instant va se généraliser et il n'y aura quasiment que ça, en fait.
Oui, voilà. Après, on aura forcément des cas d'usage qui vont faire que on voudra une...
Ce sera spécifique.
Voilà. On voudra sa machine en dur, sans couche de virtualisation, sans autre. Par exemple, quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le minage de crypto-monnaies. Aujourd'hui, on ne parle pas de virtualisation pour ça. C'est une machine physique avec un processeur GPU et qui va permettre de miner du Bitcoin, etc.
Je pense que les nouveaux Mac, ils vont être pas mal.
Voilà, donc le physique n'est pas mort. Mais voilà, il y a des cas d'usage précis. Mais aujourd'hui, toute cette couche d'abstraction, si on peut s'en passer, tant mieux.
Ok. Et toi, tu vas faire quoi concrètement dans 5 à 10 ans ?
Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Peut-être, enfin, l'idéal, en fait, ce serait justement de pouvoir glisser un peu plus vers la partie business. Et pourquoi pas, justement, un projet personnel. Enfin, quand je dis personnel, en tout cas, pour lequel je serais le client.
Ok.
Enfin, le client business, pas le client final utilisateur, mais... Enfin, je sais pas, vous parlez comme beaucoup de Martiniquais qui ont des idéaux, quelque chose autour du tourisme, par exemple. Ou, vu le contexte dans lequel on est, de services en ligne, on a parlé de e-commerce, aujourd'hui, tout se fait à distance. Je me dis qu'il y a peut-être des choses à développer. J'ai probablement les moyens techniques d'héberger ces choses-là, mais peut-être qu'il y a derrière, c'est de dire, vu que je sais ce qu'on peut faire, parce qu'aujourd'hui, nous, on utilise du cloud, mais je pense qu'on utilise une partie du potentiel. On a les concepts de machine learning avec l'intelligence artificielle, on a peut-être aussi tout ce qui est objet connecté. Peut-être que demain, on va se dire un projet où on va pouvoir exploiter... comment ça s'appelle, les assistants personnels type Alexa, Google, etc. Peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Et en fait, mon point, et peut-être c'est aussi un regret, quelque chose que j'aimerais bien plus développer avec toi notamment, c'est se dire, parce qu'aujourd'hui, tu t'arrives avec des projets, je te dis, comment je peux y répondre. Mais peut-être que si j'arrive en avance de phase, je te dis, le champ des possibles. Peut-être que tu aurais d'autres idées, ou peut-être que derrière, pour un client, ça pourrait faire germer des choses, etc. etc.
Donc, c'est de proposer des solutions, des innovations aussi.
Exactement, voilà. Déjà, dire, toutes ces couches techniques permettraient de faire autre chose. Et voilà, donc c'est toute cette partie veille, avant-vente, etc. Enfin, en tout cas, pouvoir, justement, une fois que le niveau... Enfin, il y a déjà une certaine maturité, mais qu'on aura atteint un niveau de maturité extrême sur le socle, pouvoir justement regarder au-delà et pouvoir être force de proposition, soit, comme je disais, pour un projet personnel ou pour pouvoir proposer des choses innovantes à des potentiels clients, quoi.
Ok. Alors, on a beaucoup parlé effectivement d'Amazon, donc AWS, son service, son d'hébergement. Il y a aussi Google qui le fait, il y a Microsoft pour Azure.
Même Alibaba en Chine.
Voilà, donc là, on parle de marques qui sont américaines et chinoises. Est-ce qu'il existe des solutions comparables en Europe ?
Alors comparables...
En tout cas, au moins alternative.
Alternative, oui. Je pense qu'aujourd'hui, pour parler de la France, on peut parler d'OVH, d'Iliade, donc la maison mère de Free. Qui ont des solutions, peut-être pas avec la même force de frappe, quoique, ce ne sera pas la même force de frappe, mais aujourd'hui, OVH est quand même réparti sur le continent américain et l'Europe, notamment, et propose justement des alternatives qui sont déjà peut-être moins chères, mais qui peuvent être tout aussi efficaces.
Okay.
Aujourd'hui, comment on peut comparer? Ben aujourd'hui, tu vas dire... par rapport à ton besoin, t'as peut-être pas besoin de la force de frappe d'Amazon, finalement. Si t'as ton petit site vitrine, où tu sais que les gens vont juste venir regarder les horaires de ta boulangerie, peut-être qu'un hébergement plus adapté, plus économique, et justement où le retour sur investissement sera tout de suite visible, t'as pas besoin forcément d'aller chez Amazon déployer de la redondance, de la résilience, etc. Tous les mécanismes offerts par Amazon, mais qui finalement mis bout à bout peuvent coûter cher. Et avoir ton petit hébergement chez OVH, qui propose aussi de l'automatisation, des services qui permettent de innovants et qui vont répondre finalement à ton besoin. C'est comme tout. Tu as le haut de gamme, mais peut-être que le moyen de gamme va tout à fait répondre à ton besoin et finalement tu seras dans le luxe, quoi.
Ok, merci beaucoup Lionel. On a passé, je pense, un bon moment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous. Mais avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver si on a besoin d'être hébergé de tes services?
C'est donc Lionel, par exemple, par mail, lionel@bifrost.com.
Je vous mettrai tout ça en description du lien. Merci beaucoup Lionel et à très bientôt.
Ok, à très bientôt, merci beaucoup.
Au revoir. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour qu'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.